Je voudrais d'abord, en tout premier lieu, remercier le campus Condorcet pour l'invitation qui m'a été adressée et qui me fait grand plaisir parce que c'est un projet que j'ai eu le plaisir, que je continue d'avoir le plaisir de suivre depuis les premiers moments et dont je suis heureux avec vous de voir les débuts de réalisation que vous avez pu voir à l'écran. Alors, dans le cadre du cycle global local organisé donc par le campus sur le thème de ces échelles, j'ai donc proposé de réfléchir avec vous à une question que toute historienne et tout historien ne peut éviter de se poser. Peut-on faire l'histoire de tout? Question qui est simple dans sa formulation, mais qui en fait ouvre sur des abîmes de perplexité. Pour ne rien laisser dans l'ombre et ne laisser en dehors aucune dimension de la question posée, je vais suivre une méthode que vous allez peut-être juger extrêmement scolaire, l'analyse grammaticale de cette phrase, c'est-à-dire que la discussion portera d'abord sur l'objet direct, l'histoire, que faut-il entendre par histoire des sociétés. Ensuite, je me pencherai sur le complément de nom de cet objet, tout, dans l'expression « histoire de tout », quel sens donner à la totalité ainsi désigné, puis mon regard se portera sur la locution verbale « pouvoir faire », car vous sentirez, peut-être vous sentez déjà, comme moi, que dans « peut-on », on entend en réalité deux questions à la fois, c'est « est-il possible de ?», mais également « est-on fondé à ou a-t-on le droit de ?». Et pour finir, je suggère que nous nous penchions ensemble sur le plus discret des mots de la question « peut-on faire l'histoire de tout ?», c'est-à-dire ce sujet « on » qu'il faudra bien essayer d'identifier. Donc vous le comprenez, avant d'essayer d'apporter une réponse à la question que je formule, je vais essayer de déployer l'ensemble des implications de cette question pour la capacité de l'histoire en tant que science sociale de dire ou de décrire le monde social. Dans notre langue, le français, la différence de l'allemand, on ne dispose que d'un seul mot pour désigner deux choses qu'il convient pourtant de distinguer. D'une part, l'histoire, c'est l'ensemble des processus et des événements qui ont eu lieu dans le passé, ou, si vous voulez, l'ensemble des vies qui ont été vécues. D'autre part, l'histoire, c'est le récit des auteurs que des auteurs composent à propos de ces réalités passées. Il n'est pas certain que nous-mêmes, historiennes et historiens, ayons toujours cette distinction en tête. Mais pour ne pas risquer de nous perdre dans une méditation sans fin, je vous demande d'accepter comme un axiome l'idée que tout ce qui a eu lieu dans le passé a bien eu lieu. C'est un peu simple, mais au moins c'est solide. En ce sens, il n'est pas à notre portée de modifier ce qui s'est produit ou d'intervenir sur les vies qui ont été vécues par d'autres que nous. Mais nous savons aussi que seule une toute petite partie de cet ensemble nous est parvenue par divers biais. C'est donc sur la pratique du métier d'historien et sur elle seule que peut porter un raisonnement qui entend échapper aux méditations sur l'histoire entendue comme la somme de tout ce qui a eu lieu dans le passé. Il existe bien entendu plusieurs façons de comprendre l'activité de l'historien. La conservation patrimoniale des biens matériels et immatériels née dans le passé, mais toujours présent à notre vue ou dans nos esprits, en est une des incarnations possibles. L'activité commémorative, à la jonction d'une vie publique gérée par l'autorité gouvernementale, des mémoires particulières et de la production de connaissances sur le passé, en est une autre incarnation. L'imagination créatrice des professeurs pour transmettre à la génération en formation l'expérience des générations antérieures au sein d'un espace défini comme une communauté politique, voilà encore une manifestation du travail des historiens. Toutes ces incarnations de l'histoire, par-delà tout type de divergence, reposent sur deux idées simples. La première, c'est que pour comprendre une société, on a besoin de décrire des processus qui se déploient dans le temps. La seconde, qui découle de la première, c'est que les sociétés sont sujettes au changement. Ce point est essentiel, car si nous admettons que la vie sociale se transforme dans la durée, nous affirmons du même coup que nos ancêtres, ne pouvaient pas savoir de quoi leur avenir était fait, même s'ils pensaient pouvoir le savoir. Nous qui sommes nés après eux, en revanche, nous connaissons ce qu'il est advenu de leur projet, nous savons ce à quoi a abouti, ce qu'ils imaginaient pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Mais du même coup, en contemplant l'expérience des gens qui nous ont précédés, nous sommes avertis que nous ne savons pas nous-mêmes de quoi sera fait notre avenir. Cette ignorance peut nous plonger dans une forme d'angoisse. Mais nous pouvons également déployer la force nécessaire pour faire advenir un lendemain qui ne peut pas se faire sans nous, mais dont nous ne sommes jamais assurés de ce qu'il sera. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de meilleure définition de la liberté. Si pour reprendre une très ancienne formule, l'histoire offre une leçon pour la vie, c'est en nous montrant que tout ce que les hommes croient stable ou inscrit dans la permanence subit le changement. En somme, l'histoire analyse des processus sociaux que les gens du passé comprenaient à leur façon et dont ils imaginaient qu'ils seraient éternels ou voués à durer ou même à disparaître. Les historiennes et les historiens ont donc à reconstituer non seulement les processus sociaux tels que le permettent de les décrire des indices matériels conservés, mais encore à retrouver le regard que les hommes et les femmes du passé portaient sur ces phénomènes. Hier, comme aujourd'hui, il est impossible de faire passer une ligne, une frontière de séparation entre des faits sociaux et l'idée que s'en forment les personnes concernées. Cette définition de l'histoire se veut à la fois simple et générique. Les processus sociaux se déploient dans le temps. Mais elle ne dessine pas un paysage unitaire. Au contraire, elle autorise plusieurs théories de l'histoire humaine. Et même dans sa très large acception, elle ne peut pas être tenue pour la seule façon de saisir les sociétés dans la durée. C'est ainsi, pour reprendre la distinction proposée par Yosef Haïm Yerushalmi, que le judaïsme traditionnel a, depuis le Moyen Âge, privilégié la mémoire des fidèles à travers l'injonction hébraïque « Zachor, souviens-toi », au détriment de l'histoire, entendue comme la chronique des événements survenus au peuple juif dans chacune des sociétés où il s'est trouvé exilé depuis la seconde destruction du Temple. Ainsi, le judaïsme diasporique a longtemps bâti son rapport au passé dans des dispositifs qui ne sont pas ceux de la narration historique. En cela, il s'est distingué de l'écriture de l'histoire qui a vu le jour dans les sociétés chrétiennes depuis le Moyen Âge. Mais gare à ne pas tirer de conclusions hâtives de ces analyses. D'une part, il n'est nullement interdit d'écrire l'histoire du judaïsme, même quand ce dernier se détourne de l'approche historique. D'autre part, la mémoire juive ne s'oppose pas à un esprit historique de l'Occident chrétien qui, lui, se présenterait tout d'une pièce, cohérent et permanent. Rien ne serait plus erroné qu'affirmer l'existence d'une unité du rapport à l'histoire dans l'Europe chrétienne et au-delà, dans les sociétés qu'elle a colonisées et transformées. Sans prétendre livrer la liste de tous les modèles qui coexistent en Occident, on peut en donner quelques-uns. On commencera par la croyance dans l'intervention de la providence divine, y compris sous la forme de miracles, dans les affaires des hommes, sur le fondement de la révérence due aux Écritures. De la même source découle l'idée d'un chemin qui conduit inexorablement à la fin des temps, vers le jugement dernier. Ensuite, il faut retenir la très longue persistance d'une conception cyclique de la vie des sociétés, sous la forme que nous connaissons tous, grandeur et décadence et renaissance, et même révolution, qui signifie retour au même. Plus près de nous, c'est-à-dire depuis le siècle des Lumières, nous demeurons attachés à quelque chose comme le dégagement d'une philosophie du progrès de l'esprit humain. Enfin, l'histoire, lorsqu'elle entend comprendre l'émancipation des hommes, déploie une grande diversité de propositions selon que l'on perçoit l'émancipation comme l'enjeu d'une classe sociale, d'une communauté nationale ou même de l'individu. Si on croise ces façons différentes d'étudier le passage du temps avec la pluralité des modes d'expression de l'histoire, depuis la cérémonie officielle jusqu'à la mémoire intime, depuis la pédagogie scolaire jusqu'à l'attachement au patrimoine des musées, des monuments ou des paysages, on aboutit à un tableau qui offre une combinatoire, un très large éventail de combinaisons. Dans certains débats actuels, existe la tentation de rejeter l'histoire comme discours et comme ensemble de concepts nés en Occident. De ce fait, elle, l'histoire, ne rendrait compte de sociétés non européennes qu'au prix d'une domination culturelle. Or, on ne peut pas affirmer que le discours de l'histoire, tel qu'il s'est bâti par petites touches depuis un millénaire en Occident, soit uni et cohérent. L'idée que l'Occident serait animé par une philosophie unique de l'histoire est démentie par l'histoire de la philosophie. Il n'est pas vrai qu'en marge de ses conquêtes à l'échelle planétaire, l'Occident a essayé d'imposer aux autres régions du monde un discours sur le passé de toutes les sociétés sous l'empire d'une théorie commune. Un tel programme aurait été impossible parce que les Européens eux-mêmes étaient encombrés d'un fatras de théories contradictoires entre elles. De surcroît, les doutes des Européens sur leur propre histoire se sont accrus lorsqu'il a fallu intégrer à leurs réflexions les sociétés avec lesquelles ils entraient en relation. Ainsi, lorsqu'on dénonce une philosophie occidentale de l'histoire, ce qui est visé, ce n'est pas le cadre générique que j'exposais il y a un instant, c'est-à-dire le désir de comprendre les processus sociaux dans leur durée. Ce qui est visé, c'est d'abord un discours sur l'histoire bien particulier, celui que l'on peut attribuer au philosophe allemand Hegel au début du XIXe siècle. Il entendait produire une théorie englobante de l'histoire. Cette théorie décrivait l'histoire comme le processus par lequel les hommes augmentent leur capacité à produire une pensée philosophique. Il revenait à l'Occident, héritier des Grecs et de la révélation chrétienne, d'occuper l'avant-garde de ce processus, qui deviendrait universel au terme d'une évolution par laquelle les peuples du monde rejoindraient le groupe de tête. À l'époque où il écrivait, le philosophe estimait immense le différentiel de performance entre les peuples du point de vue de l'esprit tel qu'il l'entendait. Un palmarès se dégageait. Sans surprise, alors que la traite négrière légale puis illégale battait son plein, les Africains se situaient au plus bas du tableau. Cette philosophie de l'histoire eut son heure de gloire. Personne ne songe à le nier. Mais ses effets furent complexes, puisqu'elle alimenta aussi bien la pensée de Karl Marx que la propagande du colonialisme ordinaire. Mais on ne saurait prendre la partie pour le tout, c'est-à-dire affirmer que la philosophie de Hegel sur l'histoire est la théorie de l'histoire des Occidentaux sans autre forme de procès. Il est important de le répéter. Le travail des historiennes et des historiens ne repose pas sur l'existence d'une théorie unique de l'histoire, mais sur un ensemble de traditions et de propositions souvent contradictoires entre elles. À charge pour chaque historienne, pour chaque historien, de définir une question, de conduire une enquête et de produire une analyse qui ne soit pas traversée de contradictions logiques, c'est-à-dire qui n'avance pas une chose et son contraire. La vérification de la pertinence d'une argumentation s'effectue en appliquant un simple critère qui est celui de la cohérence interne. Le résultat de cet examen est souvent désolant. À la lecture de tant de travaux, on se souvient de la remarque que Don Juan adresse à Sganarelle quand Sganarelle essaye de le convaincre de changer de vie. « Bon, voilà, ton raisonnement qui a le nez cassé. » Telle est la critique qu'appellent les travaux historiques, loin de tout slogan, loin de toute emphase. Nombreux sont les livres d'histoire que l'on peut prendre en défaut de cohérence. Bien plus rares sont ceux auxquels on peut reprocher de s'aligner sur une doctrine ou une idéologie héritière de Hegel. L'idéologie qui enfante l'alliage de l'universel et de la hiérarchie, c'est ce que je viens de présenter, a eu plusieurs sources et incarnations. D'autres auteurs, et évidemment ici je ne pouvais pas ne pas le citer, tels Condorcet pendant la Révolution française, ont dessiné le scénario d'une convergence progressive de toutes les sociétés dans la direction d'un modèle unique de perfectionnement de la vie collective et individuelle. Ce modèle correspond à la marche du progrès scientifique dans l'Europe des Lumières. Mais à propos de Condorcet, il n'est pas inutile de rappeler que ce philosophe citoyen fut aussi un militant de la cause des Noirs. Membre fondateur de la Société des Amis des Noirs, il militait pour l'abolition immédiate et inconditionnelle de tous les esclaves. Chez lui, la conviction que l'Occident se situait à l'avant-garde n'interdisait pas l'exigence d'émancipation politique des victimes de la racialisation et de la servitude. Gardons donc en tête que ce type d'ambivalence demeure au cœur de l'expérience historique de l'Europe. Arrivés à ce point de notre examen, l'histoire d'un mot a valeur de signe. Il s'agit du terme « civilisation ». Il désigne, vous le savez, un état supérieur de la culture, fruit d'un processus d'affinement des mœurs, de l'éducation, des relations sociales et des institutions politiques. Il apparaît, il naît, au milieu du XVIIIe siècle, simultanément en France et en Écosse. Par opposition à la barbarie, la civilisation se définit comme une évolution qui finira par affecter toutes les sociétés et tous les hommes grâce au développement des potentialités de l'espèce humaine. Ainsi, la notion de civilisation place les progrès réalisés par les sociétés d'Europe occidentale, là encore, à l'avant-garde de toute l'humanité. Elle dessine donc un mouvement qui est à la fois universel, eurocentrique et hiérarchique. Mais, dans le même temps, soit dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le mot « civilisation » est utilisé pour désigner différentes cultures et sociétés autres qu'européennes, dans leur diversité et dans leur singularité. C'est ainsi que l'on parle de « civilisation chinoise », de civilisation musulmane, de civilisation précolombienne au pluriel. Autrement dit, le terme civilisation, qui désignait la prétention européenne à incarner l'unique modèle possible de développement de l'humanité, indique également son exact contraire, la pluralité des cultures du monde, et une pluralité mise en valeur pour elle-même. Ce qui s'exprime à travers ce mot « civilisation », c'est à la fois la conviction de la supériorité du modèle occidental, mais aussi la reconnaissance de la valeur de chacune des autres sociétés. Il convient de le redire, excusez-moi peut-être d'être répétitif, que l'Occident n'a pas engendré une pensée unifiée de l'histoire locale ou globale, qui serait adossée à une philosophie unique du temps. Par conséquent, l'accusation qui fait de la notion d'histoire le cœur d'un programme de réduction de la diversité des sociétés et une incitation à imiter les trajectoires empruntées par les sociétés européennes est infondée. Elle repose sur le postulat, dont ce n'est pas ici le moment de démontrer la fausseté, de l'unité de l'Occident, unité vis-à-vis de lui-même et dans ses relations avec ce qui n'est pas lui. Venons-en à présent à ce complément de nom, de tout, dans l'expression « histoire de tout ». La clarification de ce point est essentielle dans le cadre d'une série de conférences qui abordent le problème de l'échelle globale. À ce sujet, nous sommes, et en particulier là au fond les plus jeunes, extraordinairement mal élevés, c'est-à-dire, comme disent les parents, nous sommes pourris gâtés. Notre rapport à la totalité du monde est aujourd'hui encadré par des outils de perception qui était inimaginable il y a moins de 20 ans. Le GPS, Google Maps et, plus encore, Google Earth ont repoussé cartes et atlas, ces exploits de la connaissance, de la représentation et du graphisme, dans le magasin des antiquités. Plus besoin d'adresse pour replier des cartes, plus besoin de force pour manier de lourds atlas. Le monde nous est offert sur écran avec une précision et une simultanéité qui sont vertigineuses. Dans ces conditions, l'échelle globale, loin d'apparaître comme le point d'aboutissement d'un travail d'accumulation des connaissances et des points de vue, se présente désormais à nous comme un point de départ. Mais un point de départ dont il faut impérativement se défaire si l'on souhaite comprendre les processus historiques qui ont accouché de la globalisation. Il faut donc abandonner le point d'arrivée, qui aveugle parce qu'il donne tout à voir. Il aveugle parce qu'il empêche de comprendre les états successifs des rapports au monde que les hommes ont vécu dans le passé. Il est donc important, avec un certain esprit de rigueur, de faire l'effort d'imaginer comment les choses étaient avant le GPS. Mais comment elles étaient avant Internet, avant la télévision, avant la radio, avant le cinéma, avant l'avion et même l'aérostat, avant la photographie instantanée, avant la photographie posée, avant la lithographie, avant les grands tirages de presse à bon marché, avant la gravure sur cuivre, avant la presse à imprimer, avant la gravure sur bois. Mais aussi avant les différents supports d'enregistrement du son qui contribuent, eux aussi, à nous faire comprendre la pluralité du monde. Ce travail d'assaise est un des plus exigeants qui soit, car il contraint à lutter contre l'évidence. Cet exercice est celui qui révèle le mieux les qualités professionnelles d'une historienne ou d'un historien. Pour des sociétés qui disposent de l'écriture manuscrite, de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, mais aussi de la poésie et son accompagnement musical, le monde extérieur, demeure pour l'essentiel de l'inconnu et de l'impénétrable. Plus encore, de l'insoupçonnable. Quant au tout, il peut être imaginé par ces sociétés qui n'avaient ni Internet ni cinéma. Bien sûr, il peut être imaginé. Mais s'il l'est, en suivant la narration qui ouvre le livre de la religion révélée, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Chaque fois que l'historien recule d'un cran, de Google Earth à l'enluminure médiévale, il doit le faire en tenant compte de la réalité matérielle des rapports au monde qu'établissent les membres de telle ou telle société en fonction des techniques de figuration et de communication dont ils disposent. Lorsqu'on cherche à établir que des globalisations anciennes ont été réalisées, c'est assez à la mode, vous le savez, il faut intégrer au raisonnement quelle proportion d'une population est exposée à la circulation des hommes et à la consommation des produits, par quoi se manifeste le désenclavement de la globalisation. Depuis longtemps, les années 80 au moins, on effectue des relevés biochimiques sur le contenu d'amphores de vins d'Italie et de Gaule, datant du 1er siècle de notre ère, et retrouvés dans des épaves dans la rade de Cochin, dans l'Inde du Sud-Ouest. Ce port lui-même, Cochin, n'étant pas un point d'arrivée, mais au contraire un centre de redistribution de produits transportés par mer en direction de régions plus orientales. Faut-il dès lors parler d'une globalisation contemporaine de l'empereur Tibère? Ce serait prêter à ce circuit de négoce une unité et une vigueur qu'il n'avait pas. Qu'en est-il de l'ensemble des opérations depuis la production agricole de ce vin jusqu'à son transport et sa commercialisation? Car chacune de ces opérations, chacun de ces segments, sont des médiations, c'est-à-dire autant d'écrans qui séparent, autant qu'ils unissent, le vigneron d'Aquitaine et le négociant de Cochin. Faut-il, en remontant plus loin, affirmer que la diffusion de l'agriculture ou les migrations anciennes, parce qu'elles ont couvert des distances immenses, sont des formes de globalisation. Les trois exemples que je viens de donner ne constituent pas, à mon sens, des manifestations de globalisation. On le comprend pour trois raisons. Le commerce du vin au long cours dans l'Antiquité ne concerne qu'une part infime de la société exportatrice et de la société importatrice. La diffusion de l'agriculture et les migrations anciennes se déploient sur des périodes beaucoup trop longues pour que les hommes, au cours de leur vie, ou même en faisant appel à la mémoire collective, puissent mesurer le chemin parcouru. La globalisation requiert au moins trois conditions. Elle doit concerner une proportion importante de la population, se réaliser dans un temps assez bref pour que ses effets transformateurs soient perceptibles, et donc, il faut que les hommes et les femmes prennent conscience de la transformation ainsi engendrée. Pour que ces conditions soient remplies, les techniques de diffusion des connaissances jouent un rôle de première importance. C'est pourquoi j'ai tendance à considérer que la globalisation reste un phénomène récent, même si depuis des siècles, la curiosité et l'esprit d'aventure ont conduit des personnes et des groupes à atteindre les contrées les plus éloignées de leur foyer, même si depuis des siècles, des individus se délectent de la consommation de produits et d'informations venus du bout du monde. Lorsque je pose la question « peut-on faire l'histoire de tout ?», je n'entends pas ce « tout » comme une échelle surplombant l'expérience humaine, c'est-à-dire la saisie d'un seul coup d'œil de la totalité de ce qui se produit sur Terre dans les sociétés humaines à la façon de Google Earth. La meilleure façon de se détacher d'un tel horizon, c'est encore de reformuler la question sous la forme « peut-on faire l'histoire de n'importe quoi ?». Dans cette version, tout perd sa dimension globalisante. Il s'agit ainsi de se demander si on peut se proposer de composer l'histoire de tout type de phénomène ou de tout type de processus humain. Dès lors, comme je l'ai annoncé, c'est le verbe « pouvoir » dans l'expression « peut-on faire ?» qui demande à être interrogé. À première vue, la question est technique. Elle porte sur la capacité des historiennes et des historiens à atteindre des objectifs scientifiques qu'ils et elles se sont fixés avec les moyens d'investigation qui sont les leurs. Mais on sent bien que dans le sillage de cette question, que nous allons aborder dans un instant, pointe une autre question qui fait advenir l'ambiguïté de « peut-on ?». C'est la question « doit-on faire ?» ou encore « a-t-on le droit de faire ?». Celle-là n'engage aucune question technique, mais ouvre sur des enjeux moraux et politiques. Les réponses se distinguent entre crispation hiérarchique et ambition démocratique. Par crispation hiérarchique, il faut comprendre la réticence des institutions savantes à tenir certains sujets, objets ou phénomènes comme dignes de recherche et d'enseignement. Longtemps, les études sur les pauvres, sur les femmes, sur les populations colonisées ont été tenues en marge des grandes institutions du savoir, à commencer par l'université. Contre la hiérarchie qui désignait comme légitime les savoirs qui concernaient les décisions politiques, la stratégie militaire, la diplomatie, les arts de cour, il a fallu se battre pour imposer les sujets jusque-là jugés sans importance et dont je viens de donner des exemples. La réforme démocratique des thèmes de recherche a transformé en profondeur le visage de l'université, de l'enseignement et de l'édition. Mais une tentation que je qualifierais volontiers de post-démocratique se fait jour depuis quelques années. Elle repose sur l'idée que la démarche de l'histoire ne devrait pas étendre son emprise aux réalités jusque-là tenues à l'écart. En effet, la démarche historique est alors caricaturée comme un discours occidental à la fois linéaire et aligné sur le vecteur du progrès, comme si l'histoire, des historiennes et des historiens, ne savait parler que la langue du succès, puisque cette discipline avait de tout temps été celle des vainqueurs. Se demander si on peut faire l'histoire de tout, cela revient aussi à affronter ce défi politique. La réponse qu'apportent la tradition et la hiérarchie comme expression de la domination de classe, de genre et de race, s'est disqualifiée d'elle-même. Et en dehors de quelques publicistes qui essaient de se faire passer pour historiens sur les plateaux de télévision, ces démarches ont à peu près disparu des institutions savantes. La réponse que j'ai qualifiée de démocratique est le résultat d'une relation dialectique entre des engagements militants et la conquête de la légitimité scientifique. Les militantes et les militants ont obtenu, au terme de combats qui ont duré des décennies, que des catégories sociales laissées dans l'ombre, que les femmes, que les populations colonisées fassent l'objet de recherches et de l'enseignement en histoire, au même titre que les élites, massivement masculines, de chaque société. Le sujet est là lorsque les historiennes et des historiens qui ont choisi d'aborder ces... le succès est là lorsque des historiennes et des historiens qui ont choisi d'aborder ces sujets à leurs risques et périls obtiennent des postes universitaires. Mais également lorsque ces thèmes figurent dans les manuels scolaires, quand ils font l'objet de questions au concours de recrutement des enseignants, lorsqu'ils sont présents dans les appels d'offres pour financement de la recherche, quand les livres issus de ces travaux se trouvent dans les librairies. En France, s'il faut attribuer une paternité à ce mouvement démocratique de longue haleine, on peut évoquer l'œuvre de Jules Michelet, qui, dans une certaine tradition républicaine, composa deux livres dont la vigueur aujourd'hui reste frappante, « Le peuple » en 1846 et « La sorcière » en 1862. Enfin, la réponse que j'ai désignée comme post-démocratique résulte en premier lieu des débats critiques que les Européens eux-mêmes ont alimentés à propos des doctrines qu'ils ont produites et qui les ont formées. En effet, certains désignent la volonté de connaître toutes les sociétés du monde comme autant d'entreprises de domination des Européens depuis les commencements de leur expansion mondiale. Cette critique, née en Europe, s'approfondit depuis plusieurs décennies, en particulier depuis la dénonciation de l'échec des Lumières qui est constatée au lendemain du désastre nazi, c'est-à-dire du suicide de l'Europe. Mais en réalité, c'est depuis bien plus longtemps, que des penseurs européens se sont employés à démonter le récit heureux des décrets de la Providence, puis celui des progrès des Lumières européennes. Depuis Las Casas, Montaigne, Shakespeare, Swift, Diderot, Marx, Hugo, Tolstoï, Nietzsche, Dostoïevski, Gramsci, Adorno et Horkheimer, Foucault et tant d'autres qui sont absents de cet inventaire à la Prévert que vous voudrez bien pardonner. En rejetant la volonté de connaître à la façon des Européens, il ne faudrait pas aboutir à un cloisonnement des savoirs. Que gagne-t-on à enfermer des sociétés non européennes dans des dispositifs de connaissances clos sur eux-mêmes? D'un côté, on appréciera les gains obtenus par l'effort de tirer des sociétés non européennes des notions absentes de l'héritage européen et qu'on juge pertinentes pour analyser ces mêmes sociétés. D'un autre côté, on peut redouter une fraude et un danger. La fraude consiste à extraire de la langue d'une société étudiée des mots dont on dit qu'ils expriment des notions qui n'existeraient pas en Occident. Pour dire qu'un terme est intraduisible, note l'anthropologue Gérard Lanclus, encore faut-il l'avoir compris. Or, qu'est-ce donc que comprendre, sinon traduire d'une langue et d'une culture vers une autre? Par là, je ne veux pas dire qu'il existe un lexique commun qui unifie tous les héritages et toutes les sensibilités de façon sous-jacente. Percer les conceptions les plus profondes et les plus singulières d'une culture qui vous est étrangère est un exercice toujours exigeant, jamais impossible. J'annonçais une fraude, mais aussi un danger. On l'aura compris, le danger, c'est décréter une fragmentation des approches que l'on applique à chaque société en fonction de ses traits distinctifs. Cela implique que seules des notions et des sensibilités recueillies au plus près du terrain, dans une quête de l'authenticité, pourraient décrire les sociétés concernées de façon légitime, c'est-à-dire sans commettre d'intrusion culturelle. Mais à ce compte-là, tout ce que les historiennes et historiens urbains ont écrit depuis des décennies sur l'histoire rurale et la vie paysanne, ici en France, relève du même type d'intromission. Les populations dominées ont-elles intérêt aujourd'hui à une telle protection paternaliste? Car la proposition de repli est formulée par des auteurs qui, eux, ont formé leur esprit critique auprès de ceux, tous européens, que j'ai cités tout à l'heure. De ce fait, les populations non européennes sont invitées à se priver de l'accès à certains modèles d'autocritique et à la comparaison au nom de la préservation de leur authenticité. Le point du « doit-on faire ? Est-on fondé à faire ? A-t-on le droit de faire ?» inclus dans la question « peut-on faire ?» ayant été abordé, demeure la dimension technique ou, si vous préférez, professionnelle du « peut-on ?». Cela revient à se demander s'il est réaliste de prétendre faire l'histoire de toute chose ou de n'importe quelle chose. La seule réponse de principe qui me semble juste est positive. Que l'on songe à des exploits philologiques, tels le déchiffrement de la pierre de Rosette par Champollion, que l'on invoque une anthropologie capable de reconstituer des systèmes de mythes et l'organisation de sociétés sans écriture à la manière de Claude Lévi-Strauss. La recherche savante sur les sociétés a montré sa faculté à produire des connaissances sur des réalités qui paraissaient impénétrables ou inaccessibles. Par contraste, ces réussites donnent tout leur relief aux limites de nos capacités à analyser des pans entiers de l'expérience humaine. Pour en revenir au travail des historiennes et des historiens, aucun groupe, aucun processus, aucun phénomène n'échappe à leur curiosité. Mais pour conduire l'entreprise de reconstitution des passés, les outils dont on dispose ne sont pas d'égale puissance. Du local au global, à toutes les échelles de la vie sociale, les traces des sociétés du passé sont inégalement réparties. Les riches laissent plus de traces que les pauvres, les hommes plus que les femmes, les vainqueurs plus que les vaincus, les orthodoxes plus que les hétérodoxes. On n'en saura jamais autant sur les sociétés sans écriture que sur les sociétés qui disposaient de l'écriture et de la conservation de l'écrit. Interviennent également des facteurs tels que le climat, qui favorise tantôt la préservation ou tantôt accélère la destruction des supports matériels. La recherche historique ne peut pas nier l'inégalité de ces conditions, mais elle peut conduire des enquêtes en dépit de cette inégalité que rien ne peut compenser complètement. Posons un problème paradoxal. Comment faire l'histoire des enfants ? Ils ont vocation à cesser d'être ce qui les définit, contrairement aux femmes qui, en principe, n'ont pas pour destin de devenir des hommes. Or, quelle parole des enfants, du temps jadis, parvient jusqu'à nous, si ce n'est celle que les adultes ont recueillie et interprétée du haut de leur supériorité et de leur extériorité par rapport à l'enfance ? Est-ce que cela veut dire qu'une histoire des enfants est impossible ? Eh bien non. Les travaux de Jean-Claude Schmitt, que je salue, de Giovanni Levi, mais aussi de Philippe Ariès ou encore de Pierre Richer, montrent exactement le contraire. Aucun de ces historiens ne rejette ce que les adultes écrivent sur les enfants, aucun ne prend le deuil d'une authenticité enfantine impossible à restituer. En histoire, on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on trouve. Ainsi, l'exercice du métier d'historien varie en fonction de conditions qui ne dépendent pas de la volonté des professionnels, mais d'une situation objective, le volume et la qualité des ressources qui ont survécu au passage du temps. Dans un livre paru il y a 3 ans sur la relation, ou les relations, pardon, entre l'Europe et les Indes depuis le XVIe siècle, les deux auteurs remarquaient et déplorait que l'on disposait de moins de documents sur la royauté cambodgienne de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que sur la plus périphérique des provinces de l'Empire romain. Ici, pas de place pour le jugement de valeur. Rien n'autorise à penser que la politique des rois du Cambodge ait été moins sophistiquée que celle des consuls romains. Le fait est qu'on en sait beaucoup moins sur les premiers, le Cambodge, que sur les seconds, sur Rome, sur la plus périphérique des provinces romaines. Mais personne n'en tire pour conséquence qu'il est vain ou inutile de travailler sur l'histoire de la royauté cambodgienne, malgré tout. Mais il faut alors distinguer 2 objectifs. Celui technique, qui entend reconstituer des processus à partir d'un faible nombre d'indices, et celui moral ou politique, qui prétend restituer sa dignité à une monarchie que le colonialisme européen a placée sous tutelle depuis le XIXe siècle. La confusion de ces deux registres conduit certains auteurs à proposer d'abandonner les méthodes de la recherche historique lorsqu'il s'agit d'évoquer le passé de ce type de société. Offrir aux gens d'aujourd'hui un récit qui tourne le dos à l'enquête historique sous prétexte de s'affranchir de la culture de l'ancien colonisateur est alors une duperie. Revenons à notre point de départ. N'importe quel phénomène humain est pris dans une dimension historique au sens où le passage du temps modifie toute chose. Partant de là, le raisonnement historique peut éclairer toute réalité sociale à la condition de conduire des enquêtes suivant des procédures explicites et dont l'efficacité peut être testée. Si on s'accorde sur ces deux points, alors il faut en tirer une conséquence. Non seulement n'importe quelle réalité du passé peut faire l'objet d'un travail d'histoire, mais encore n'importe qui peut le conduire à la condition de s'en donner les moyens. Le premier moyen qu'il convient de se donner est celui de l'accès aux traces conservées, c'est-à-dire les langues des sources, car la langue, comme l'enseigne l'anthropologie, est le siège de la singularité de toute société. Pas de recherche sur la base de traduction, pas d'enquête soumise aux interprètes. Plus encore, même si la langue anglaise a acquis au cours du siècle passé la fonction de véhicule scientifique à l'échelle planétaire, les sociétés du monde produisent des sciences humaines en langue maternelle. Sans capacité à lire les travaux que les autres savantes et savants ont rédigés dans leur langue, aucun espoir de produire de la bonne histoire, pas plus que de la bonne sociologie ou de la bonne philosophie. La maîtrise de la diversité des langues ne signifie toutefois pas que l'on se perde dans l'atomisation des particularismes. Apprendre les langues de la pluralité humaine n'a pas pour finalité de constituer des cellules de savoir closes sur elles-mêmes. En fait, aucune réalité sociale n'est fermée sans communication avec ce qui lui est extérieur. Bien malin qui serait capable de dessiner les frontières qui séparent les catégories sociales, les rôles sexuels, les cultures et usages linguistiques, ou encore les territoires vécus par les hommes et les femmes qui les habitent. Et si les réalités sociales ne sont pas repliées sur elles-mêmes, peut-on prétendre en réserver la connaissance à celles et à ceux qui sont réputés leur appartenir? À ce point de notre parcours intervient le problème que pose le mot le plus discret de la question. Peut-on faire l'histoire de tout? C'est-à-dire ce petit « on », bien discret et pourtant sujet de la phrase. Ce pronom personnel doit être explicité. Il nous invite à formuler la question de façon plus précise. N'importe qui peut-il faire l'histoire de n'importe quoi? Qui sont les personnes habilitées pour analyser les différents cantons d'un monde qu'on voudrait aborder comme fragmentés et différenciés? Et je vais vous raconter une anecdote récente. À l'été 2017, a éclaté une polémique à propos de l'accrochage dans le musée Whitney de New York d'un tableau représentant le cercueil ouvert de l'enfant noir Emmett Till, victime d'un assassinat raciste en 1955 dans le Mississippi, à l'âge de 14 ans. La mère de cet enfant avait voulu que le public des funérailles puisse voir le visage atrocement tuméfié de son fils et laisser donc le cercueil ouvert. Ce meurtre a été un déclencheur du mouvement des droits civiques, il a inspiré Aimé Césaire, comme il a inspiré Bob Dylan. Or, le tableau accroché en 2017 est l'œuvre de la peintre Dana Schultz, qui est blanche. Il a fait l'objet d'une campagne hostile, conduite par deux artistes noirs, qui déniaient à une artiste blanche le droit de s'inspirer de la douleur des noirs pour peindre un tableau. Ils ont exigé que l'œuvre fût décrochée. Face à cette exigence, l'écrivaine d'origine jamaïcaine Zadie Smith, dont tous les romans à peu près évoquent la condition noire au Royaume-Uni, dans un magazine s'interrogeait sur la définition de ses propres droits à elle à aborder la souffrance des Noirs. Zadie Smith est à la fois métisse et se définit politiquement comme une femme noire. Par rapport à Dana Schutz, qui elle est blanche, Zenith Smith demande « Est-ce que je jouis d'un droit complet ou d'un demi-droit à porter la douleur des Noirs américains ?» Et dans son article, Zenith Smith continue. Elle se demande « Mes deux enfants, que j'élève politiquement comme deux enfants noirs, mais dont le père est blanc, auront-ils un quart de droit à porter la souffrance des Noirs ? Faut-il être juif pour écrire l'histoire de la Shoah ? La réponse qu'apporte l'historiographie française récente est négative. Aucun des deux historiens qui ont produit dans notre pays les travaux les plus documentés sur la matérialité de l'extermination, contredisant les mensonges des négationnistes, aucun de ces deux historiens ne se réclame d'une quelconque appartenance au monde juif. Un homme du genre masculin peut-il écrire sur l'histoire des femmes ? Qui aujourd'hui oserait trouver ridicule qu'un garçon se définisse comme féministe sur le plan politique ? La recherche sur la traite esclavagiste, aujourd'hui, concrètement, elle est conduite par des auteurs africains, par des auteurs afro-américains, aussi bien que par des Européens, et même des blancs anglo-saxons protestants des États-Unis. Il est plus facile de se voir accorder le droit à l'étude d'une réalité en fonction d'une origine revendiquée que d'apprendre les langues sans lesquelles on n'atteint rien, si ce n'est en surface. La sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, métisse de double culture espagnole et quechua, engagée dans la défense des Amérindiens, elle tient tous les bouts de la chaîne. Elle milite pour la reconnaissance des droits des Amérindiens, aujourd'hui. Elle identifie dans les langues quechua et aymara les notions que les Amérindiens ont forgées pour décrire leur réalité. Elle mobilise les méthodes des sciences sociales, c'est-à-dire aussi des sciences sociales européennes. Mais elle remarque que parmi les chercheurs qui pérorent sur les campus américains en faveur de l'abandon des sciences humaines pour l'étude des Amérindiens, aucun n'a appris une langue amérindienne. Se donner les moyens de connaître est la marque du métier d'historienne et d'historien. C'est un viatique bien plus sûr que la revendication d'appartenance ethnique ou politique ou que de bavardages enflammés disponibles sur YouTube. Ainsi, si toute réalité peut faire l'objet d'une enquête historique, et si cette recherche peut être conduite par une personne qui ne s'identifie pas sur le plan émotionnel avec son objet d'étude, alors la réponse à la question initiale « Peut-on faire l'histoire de tout ?» est oui. Oui, on peut faire l'histoire de tout. N'importe qui peut faire l'histoire de n'importe quoi dans le respect des procédures et des méthodes. Cette conclusion vient en renfort de l'affirmation de l'universalisme méthodologique des sciences sociales. Il ne s'agit pas ici d'un universalisme politique, moral ou hiérarchique. Cet universalisme méthodologique naît de la conviction que toutes les formations sociales ont produit également des êtres humains, ou plus exactement qu'elles ont produit des êtres également humains, sans distinction de race ni de genre. Cette conviction se fonde sur la scientificité de l'anthropologie sociale, pas sur un catéchisme moral. Autre chose est l'idéologie de l'universalisme, entendue comme affirmation de la supériorité de l'Occident. Mais cette histoire, vous le savez, elle est aussi vieille que la prédication de saint Paul, en fait. Qu'il me suffise de rappeler un fait politique, on ne peut plus concret, on ne peut plus empirique. Tous les systèmes colonialistes sont différentialistes. C'est même leur principal caractère, distinction. Hiérarchie, ségrégation sont les outils de la domination coloniale dans les pratiques comme dans le droit. Et cela partout où une conquête territoriale a engendré une situation coloniale. L'organisation coloniale des sociétés insulte toute conception universaliste de l'humanité. Que depuis 2000 ans, les chrétiens, les musulmans, les libéraux, les républicains et même les communistes aient été pris en défaut de contradiction entre leur universalisme proclamé et leurs pratiques discriminatoires, cela ne peut être nié. Raison de plus, pour résister à la tentation de la fragmentation et de la segmentation, c'est-à-dire à des programmes qui visent à constituer des clientèles politiques sur la base de communions identitaires. Les sciences humaines et sociales ne peuvent abdiquer malgré ces désastres moraux, qu'ils soient passés ou présents. Seule la revendication d'un universalisme méthodologique est compatible avec l'affirmation de la nature scientifique de nos recherches et de nos enseignements. Voilà où je souhaitais vous conduire, voilà ce qui m'apparaît comme la bonne réponse, sans quoi j'exercerai certainement une autre profession. Je vous remercie de votre attention.